Ah mais je suis là! Mais je suis là, mais je suis là! Ah, les amis! Ah, bon, c'est mercredi, hein, c'est mercredi MVP, donc c'est à l'arrache. Hein. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Rien du tout, hein. C'est straight to the point. Oh, les je suis là, tonton, qui font plaisir. Vous allez bien? Ça va. Vous voyez que c'est. Eh, pour un petit stream improvisé. Oui, ouais, 8h30, ouais, 8h30, c'est pas souvent. Je me demande si ça ne devrait pas être le nouvel horaire, ça. 8h30. De la revue de presse, hein. Sachant qu'il y en aura deux aujourd'hui, mais je vais vous expliquer ça dans un instant. Je vois que certains qui étaient encore au lit. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi cette revue de presse est à 8h30 et pas à 9h, 9h30, et pourquoi elle ne va durer qu'une heure et demie ce matin, et pourquoi c'est pas du tout mon studio habituel, c'est parce que je suis dans le studio de MVP, ma vie pro, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. C'est deux fois par mois. C'est une émission qui parle bah, à ceux qui sont au collège, au lycée, qui sont étudiants, qui s'interrogent sur leur avenir, et puis à ceux qui travaillent déjà et qui peut-être ont envie de changer de secteur d'activité, d'entreprise, de métier, parce qu'on a le droit de se réinventer, que sais-je. Donc on a une belle émission deux fois par mois. Elle arrive là à partir de 10h. Du coup, je lance une première revue de presse à 8h30 pour que malgré MVP, vous ayez quand même votre petite dose d'actu. Mais un peu moins long que d'habitude. C'est plutôt 1h30, 3h. Et comme 1h, 1h30, je trouve ça un peu court. Et ben du coup, j'en referai une ce soir, je pense, aux alentours de 20h. Ce sera la soirée Étienne. Voilà. Et je suis content parce que bah, cette revue de presse, qui avant était le plus souvent possible, depuis le mois de juin, elle est devenue quotidienne, c'est du lundi au vendredi. Et quand exceptionnellement on ne peut pas la faire le matin, ou en tout cas le matin dans les conditions que je voudrais, bah, je vous la refais dans l'après-midi ou le soir. Sauf que cet après-midi, je ne peux pas parce que je donne une conférence. Enfin, non, je donne une conférence. Le mec, il se la raconte. Tout ça parce qu'il reçoit des DM d'anciens premiers ministres. Français de maintenant, il se la raconte. Excusez-moi, je fais un aparté. Un aparté, une aparté. Je crois que c'est masculin. Un aparté. Et donc, je participe à une conférence sur l'éducation cet après-midi. Voilà. Je vois un moins 2 au degré aujourd'hui à Lyon. On m'a dit que il y avait de la neige. Là, à l'instant, dans le studio de MVP, l'équipe est en train de se. Oh, le studio, il est beau devant moi. Que de la neige allait arriver peut-être à Paris. C'est qui le ministre? Je vous dirai pas. On dit un aparté. Merci MMG, je me disais bien que c'était masculin. Voilà. Donc, oui, qu'il y a peut-être de la neige qui allait arriver à Paris là dans les prochains jours. C'est cool. Je pensais aux enfants, je me suis dit que ça pouvait leur faire plaisir. Vous, il y a de la neige quelque part là, ou pas? Ne vous inquiétez pas, hein, à gauche là, il y a un truc. C'est mon écran d'attente. Hein. Grand Est est full neige même. La chance, enfin la chance. Peut-être pas pour les automobilistes, pour ceux qui bossent, mais pour les enfants, c'est toujours un joli spectacle. Moi, quand j'étais petit, non, c'est pas, non, quand j'étais petit, c'était en Bretagne. Il n'y avait pas beaucoup de neige. Mais je me souviens à Paris, où je suis arrivé à partir de 1989, je précise au XXe siècle, hein, pas au 19e, au 18e, je vous connais, langue de vipère que vous êtes. À partir de 1989, je me rappelle, il y a eu des hivers où il y avait pas mal de neige à Paris. Puis la neige, maintenant, à Paris, t'en vois plus. Hein. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ouais. Puis quand il y en a, ça reste pas, quoi. Une conférence à 500K comme Sarkozy? Non, une conférence gratuite. Quand j'aurai été élu président de la République, hein, le projet 2027, là, vous savez, là après, 5 ans après, parce qu'on fera un mandat, on va pas non plus s'emmerder. Hein. Là, on donnera des conférences à 500K. Tel est notre projet, parce que c'est notre projet. Mais pas avant, pas avant. Là, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est une conférence gratuite. Donc, je me réjouis pour les petits Parisiens, les petites Parisiennes qui pourraient avoir de la neige dans les prochains jours. Voilà. Bon, vous, ça va, vous, sinon, la vie, les amours. Je m'interroge beaucoup sur le jeu que je dois streamer en ce moment. Voilà, on s'interroge avec les amis si on ne doit pas se lancer dans un arc LOL qui va faire rire tout le monde. On va voir. La vie, oui, les amours, non. Oh, les amours, c'est. On est dans le domaine de l'incontrôlable. Hein. C'est souvent la pagaille à Paris quand il y a beaucoup de neige. C'est ça qu'on aime. Eh, renifleur de paix, t'as vu comment il est beau ton sommaire? Hein? T'as vu comment il est beau? Ouais. On est beau quand même. Non, pas LOL qui ressort, LOL. Le jeu. Le jeu qui rend fou. La faille de l'invocateur, tout ça. Il est temps d'aller sur LOL, me dit Albast. Ok. La vie, moi, les amours, oui. Ok. Ah, ça, Mathéo, c'est l'inverse. Ok. On s'occupe des plans pour Noël ici en ce moment. Ok, Nokia, qui est peut-être le Père Noël. Un gars qui dit d'une façon mystérieuse, un gars ou une fille, dans un chat Twitch le matin, sitôt à 8h30, on s'occupe des plans pour Noël ici en ce moment, c'est peut-être quelqu'un qui bosse au pôle Nord. C'est potentiellement le Père Noël, les plus jeunes qui nous regardent. Ou un lutin. Les plus petits qui nous regardent ce matin, c'est mercredi. Sachez que quelqu'un dans le chat vient d'écrire, on s'occupe des plans pour Noël ici en ce moment. Potentiellement le Père Noël, ou la Mère Noël, ou les lutins, ou les rennes, j'en ai un dans le chat. Voilà. Donc soyez bien sages les enfants là. Hein? Soyez bien sages les enfants. Dans le chat ce matin. Arrêtez les dingueries là. On n'est pas sur Twitter. Hein. Parce que le Père Noël vous regarde. Le Père Noël, il sait si vous allez dire des... Le Père Noël, il sait si vous allez dire des dingueries sur Internet. Il le sait, il voit vos messages. Hein? Il sait qui y a derrière le pseudonyme. Voilà. La vie, ça va, mes petites santé aujourd'hui. Ah, je suis chic, il y a des petits virus en ce moment. Bon, beaucoup avec des virus là, en ce moment ou pas? Moi-même, j'ai eu petit virus fin de semaine dernière. Salut Arfang. Petit virus fin de semaine dernière qui m'a un peu embêté le week-end. Alors moi, en général, je tombe mal le week-end. En semaine, quand il faut travailler, jamais. Et puis le week-end, quand il faut se reposer. Ouais. Donc, petit virus, mais le nez qui coule, voilà Oscar, ce genre de petit virus-là. Comment ça, tu as 11 frères et sœurs? Je prépare aussi Noël, j'ai 11 frères et sœurs, je commence à me préparer tous les ans en septembre. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Et donc, je m'en suis débarrassé, j'avais mon petit virus, j'avais un petit virus qui me cherchait, et je l'ai filé à Camille Combal. Le dimanche, il était invité de Simplay. J'avais lu un article comme quoi ce genre de virus spécifiquement tu pouvais le refiler. C'est-à-dire littéralement le refiler et le refiler, pas le partager. Le refiler et tu ne l'as plus toi. Je crois que c'est dans le Figaro, je crois. Et du coup, je l'ai refilé à Camille Combal. Il était d'accord. Voilà. Et j'ai pas de nouvelles depuis d'ailleurs. Il répond plus à mes messages. Donc je suis depuis dimanche soir, je suis bien réveillé lundi matin, j'étais en pleine forme. J'étais frais comme un gardon. Et par contre, Camille répond pas à mes messages. Je sais pas ce qui s'est passé. Salut côté chi, c'est vrai ou pas? Si c'est vrai, force. Jamais malade, bain de mer toutes les semaines de l'année, 35 km de vélo pour aller bosser, jamais malade. Waouh, Marine Swim. Putain, le pseudo va tellement avec ta vie. Le message, c'est jamais malade, bain de mer toutes les semaines de l'année, 35 km de vélo pour aller bosser. Jamais malade. Et ton pseudo, c'est Marine Swim. Magnifique. Salut le vieux patron d'aimer une fille de 20 ans qui donne des fausses accusations de violence conjugale. Ça va, Mysterio de... Le camp des incels est de sortie. Le camp des soutiens des gars qui frappent les femmes. Salut Mysterio, tout va bien? T'es sûr d'avoir choisi ta bonne position sur le sujet? Oh, il est parti, merde. Oh, bon, merci Sugar. C'est possible de mettre le sommaire avec une police sans shérif, ce serait plus lisible. Faut que je sais pas si je peux changer la police. Ah, c'est peut-être la police d'origine. Attends, il est super lisible mon sommaire là. Vous trouvez pas qu'il est super lisible mon sommaire? Force Benji pour l'hospitalisation. Force Suki Stream pour la petite angine. Côté chi, waouh, oh c'est chaud. Côté, est-ce qu'on peut envoyer un max de force à Côté chi, qui sont, voilà, qui a une très lourde opération, voilà. Je sais pas si vous avez vu les deux messages de Côté chi, mais si vous pouvez envoyer un max de force à cette personne là, qui a une très très lourde opération qui arrive là, force à toi, on pense bien à toi. Je peux changer la police? Ben, renifleur de paix, t'as vu, il propose quelque chose sans shérif, je sais pas quoi. Je te laisse faire des tests. Merci mon renifleur. Du coup, le lien pour moi, ce sera le même, je change pas. Bof le sommaire, pense aux dyslexiques, les empattements, ça pique. C'est-à-dire que les lettres sont passées séparées, c'est ça? Ok. Ah, c'est sérif, pas shérif. Une police, je trouvais ça bizarre, une police sans shérif. Parce qu'une police sans shérif, ça marche pas du coup. En termes de sécurité. Ça ne changera pas, il faudra juste réactualiser. Ok, d'accord. Ah, le shérif. Pas le shérif, d'accord. Bon, les amis, on a 1h30, à peine. Oui, c'est vrai que je suis un petit peu haut sur ma chaise. Je crois que j'ai grandi depuis tout à l'heure. Merci à toi. On a 1 heure et demie à peine pour faire cette revue de presse qui est une revue de presse express. Après, à partir de 20h, merci Kotechi pour ton message, ce soir, je vous ferai une revue de presse plus complète pour ceux qui ont envie. Ok? On fait ça? Ok? Allez, c'est parti. Sommaire. On va se faire un sommaire. On va se faire un sommaire à. Qu'on commence à 8h40. Let's go. Cette chaîne se professionnalise chaque jour, quoi. C'est incroyable. Ah, les parenthèses qui sont super. Formidable. Bravo. Bravo, Renipteur de paix. Allez. Alors, un sommaire super rapide. Parce que c'est une revue de presse super rapide. Ok? Vous savez que moi, une de mes. Ça fait 5 ans que je fais cette revue de presse, donc on a ces petites marottes. Ici, il y a des sujets sur lesquels j'aime revenir, notamment des sujets que j'estime un peu sous-médiatisés. Le harcèlement scolaire, par exemple, c'en est un. En voici un autre. La lutte contre le trafic de drogue en France. Je ne comprends pas, au vu de l'ampleur que prend le sujet, et notamment des violences, des meurtres, des assassinats, des règlements de compte en marge de ce narcotrafic en France. Hein, sans en faire une obsession, j'ai l'impression que ce sujet est un peu sous-médiatisé. Voilà. On a 2 articles intéressants ce matin dans La Croix. Est-ce que notre pays est un point de bascule face au narcotrafic? Je trouve ça intéressant. Et on a dans l'Humanité un dossier. Bon, il y a plusieurs journaux qui en parlent ce matin sur le fait que, au plus haut de l'État, a priori, on en ferait aujourd'hui une priorité, la lutte contre le narcotrafic, nouvelle priorité de l'Élysée. C'est l'Humanité qui nous le dit ce matin. Je vous en parlerai. On parlera de trafic de drogue, de narcotrafic, de la situation en France, de ce qu'on devrait faire. Par ailleurs, hasard du calendrier, ce matin dans Le Parisien, il y a un monsieur qui témoigne, qui s'est lancé dans une croisade contre, comment ça s'appelle le nom scientifique là, le protoxyde d'azote. Voilà. Exactement. Oscar dit, mais le gaz hilarant, c'est le protoxyde d'azote. Exactement. Il est parti en croisade contre le gaz hilarant, ce monsieur. C'est le propriétaire d'une clinique. Voilà. Il vient de créer une association baptisée Stop Ballon. Alors ça, c'est un truc dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois. Ça a l'air anodin. Pardon, on va dire les termes, mais c'est de la merde, hein, ce truc. Hein. Si vous en consommez, si vous connaissez des gens, en général, c'est des jeunes en consommés, dites-vous bien, dites-leur bien que c'est de la merde. Ça a l'air anodin et en fait, les effets pour la santé peuvent être vraiment délétères, quoi. Voilà. À Lyon, j'en vois énormément en voiture des gars là-dessous, me dit Oscar. Voilà. Donc, stop à ça, hein. Stop à cette daubasse. On va le redire ce matin. Okay? Alors, on va parler de thunasse aussi ce matin. On va parler d'argent. On va parler de richoux. Voilà. Et on va parler d'impôts. D'abord, les richoux avec Libération, hein, qui part d'une étude de l'INSEE qui s'appelle le portrait social annuel de l'INSEE, voilà, et qui nous dit qu'en France, les ultra riches, attention aux mots, c'est pas les riches, c'est pas les moyens riches, c'est pas les très riches, c'est les ultra riches, c'est les riches des riches, sont toujours plus riches. Quand tu prends les ultra riches il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans et aujourd'hui, eh ben, ils sont de plus en plus ultra riches. On parle des 0,1% de la population. Donc, ça, c'est une étude de l'INSEE qui le dit, c'est pas Libé, mais Libé fait un article là-dessus. Voilà. Le pacte Dutreil, je vous en parlerai pas parce que je vous en ai déjà parlé hier, j'avais 24 heures d'avance, tout le monde en parle ce matin. Il y en a le Figaro, qui dit, pardon, hein, mais qui se met un peu en mode ouin-ouin ce matin et qui prend une autre étude qui dit, ouais, mais non, Quentin, 1% c'est les très riches, mais 0,1% c'est les ultra riches, on va en parler. D'ailleurs, Quentin, je sais que tu connais le sujet parce que tu es dedans, n'est-ce pas? Hein? Et le Figaro est plutôt en mode ah ouais, mais les impôts, les gars, les riches, ils payent quand même l'essentiel de l'impôt. Hein. Alors que la taxation des riches bat son plein à l'Assemblée, les 3 quarts de l'impôt sur le revenu sont payés par les 10% de ménages les plus aisés. Les 3 quarts de l'impôt sur le revenu, les 3 quarts de l'IR, sont payés par les 10% les ménages les plus aisés. C'est pas une nouveauté. Alors qu'on sait depuis longtemps que tout le monde ne paye pas l'impôt. Tout le monde ne paye pas l'impôt sur le revenu. Il y a à peu près un ménage sur deux en France qui est exempté d'IR. Et effectivement, comme c'est un impôt proportionnel, je ne sais plus quel est le terme exact, avec des tranches, et plus tu montes en revenu annuel, et plus tu as des tranches en pourcentage qui sont élevées, eh bien, on sait depuis longtemps que une grosse partie de l'IR est payée par les plus riches. Ce qui en soi n'est pas choquant d'ailleurs. C'est la progressivité de l'impôt, je crois. Et vous allez voir que ces deux infos. C'est 47% total d'impôt pour eux. Non, Oscar. Et non. Attention, ne confondez pas tranche marginale d'imposition, qui est la tranche la plus élevée à laquelle tu es imposé, et le pourcentage, ton taux moyen d'imposition. Voilà. Je rappelle, en gros, tu as une première tranche d'IR en France. J'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, de temps à temps de revenu annuel, tu vas payer par exemple 11%. J'ai plus les chiffres en tête. Et puis de temps à temps, sur cette partie supérieure, des paliers, tu vas payer 15% ou 20%, je sais plus. Ok. Mais tu paieras toujours 11% sur la première partie. Voilà. Sur la troisième partie, au-delà de temps à l'année, tu vas payer, je sais pas moi, 30%. D'accord. Mais 30% de cette partie-là, pas 30% du tout. Tu vois. Puis après, tu vas arriver à 41, voire 47 ou 45%, je ne sais plus. Et effectivement, sur ce qui va dépasser tout ça, tu vas payer 41 ou 45 ou 47%, je ne sais plus. Je sais plus quelle est la tranche maximale aujourd'hui. Mais tu ne payes pas 45 ou 47% du tout. Tu payes 47% de ce qui dépasse. Tranche marginale d'imposition. Donc non, il n'y a pas d'IR à 47% en France. Bref. Tout ça pour vous dire que le fait que les ultra-riches sont de plus 45%, voilà, merci beaucoup Iwanabi qui me donne l'information, 45% à partir de 180 294 euros de revenus annuels, tous les euros que tu gagnes au-dessus de 180 000 euros, ceux-là sont taxés à 45%, pas ce qu'il y a avant. Et ces deux infos, que les ultra-riches sont de plus en plus riches et que une part de plus importante, comment dire, que l'IR est payé de plus en plus par une part réduite de la population, bah ces deux informations ne sont pas contradictoires. C'est ce que je vous expliquerai ce matin, si je puis me permettre. Bon anniversaire à Yeli, qui fête son anniversaire. Voilà. Donc on lira Libération et le Figaro là-dessus. Voilà. Le grand retour du service militaire, ça va vous faire plaisir, ça. Pour les plus jeunes, là. Les gars, allez, à l'armée, let's go. Le béret, les classes, les pompes, les marches dans la neige. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que quand on lit ce titre, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je suis d'une génération qui a connu le service militaire. J'ai dû faire mon service militaire. Et puis après, ça a été la conscription, c'est comme ça qu'on disait ? Le service national obligatoire pour les garçons. Ça a été abandonné par Jacques Chirac. Jacques Chirac avait mis fin à la conscription. Trois décennies plus tard, Emmanuel Macron compte réinstaurer une mobilisation sous les drapeaux. Mais attention, info importante, hein, qui vient mettre un bémol au titre, sur une base volontaire. Le président Macron, voilà, il veut mettre un nouveau truc en place qui permettrait à ceux, celles aussi peut-être d'ailleurs, qui le veulent, de faire un service. Quel service ? Voilà, donc on va voir ça. Ouais, l'Ukraine, j'en ai parlé hier et avant-hier. Oui, Philox, notamment des rafales. Ouais. Donc, je vous en parlerai. Je peux même vous dire que c'est un service à peu près de 10 mois. C'est un projet. Hein. Marines, ça n'existe pas déjà, ça ? Non, c'est autre chose. Le truc qui existait avant, ça n'a pas marché, ça va être remplacé. Voilà, je vais vous en parler. Et puis, j'ai l'impression d'être un peu en service commandé pour le président Macron, là. Mais je vous parlerai aussi du président Macron à la fin, qui part dans une nouvelle croisade contre les algorithmes des réseaux sociaux. Voilà, c'est le truc dont ils s'occupent en ce moment. On n'en parle pas beaucoup, ça ne rencontre pas beaucoup d'écho. Voilà, parce que peut-être que les gens sont plus intéressés par d'autres sujets. Et sans être macroniste, je me dis que c'est un vrai sujet pourtant. C'est un vrai sujet pourtant. Voilà, on a un vrai problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux en France, et notamment avec les algorithmes, qui enferment plein de gens dans plein de bulles informationnelles. Hein, ou pour confirmer leurs idées qui sont le caca, ou parfois amplifier des états psychologiques qui peuvent être dangereux pour eux, type de dépression par exemple. Et là, on a un vrai sujet, et c'est intéressant qu'au plus haut de l'État, on commence à s'en rendre compte. On va en parler. Voilà pour cette revue, ce sommaire express. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste 1h10 avant MVP, donc cette revue de presse express, elle va être quand même gavée d'infos. Et pour répondre à la question de Clem, qui nous demandait s'il y avait une autre revue de presse cet après-midi, c'est non. C'est non. C'est ce soir. Parce que cet après-midi, je fais des trucs. Mais ce soir, à partir de 20h, j'essaierai de vous faire une revue de presse encore plus complète à partir de tous ces articles. Ça vous va ? Coucou Samuel, coucou tout le monde, bonne journée à matin à tous. J'ai vu le reportage de Martin Veil hier sur les masculinistes. Beaucoup de gamins endoctrinés sur les réseaux, ça fait flipper. Merci Marie-Marmotte. Je me suis pas rendu compte, moi. Il y aurait des gamins masculinistes endoctrinés sur les réseaux? Ah bon? Ah, j'ai pas vu ça. Je rigole, ils sont tous les jours dans mon chat et dans mes DM. On les connaît bien. Bah ouais. Ah, c'est incroyable, ouais. Ouais, c'est un truc, c'est un phénomène assez intéressant, ça aussi. Non, non, on les connaît. On les lit tous les jours. On les lit tous les jours. Ah, y a pas que des gamins, mais effectivement, il y en a, il y en a. Bon, on y va? L'algorithme de X, par exemple, t'enferme dans l'extrême gauche-droite à la seconde où tu crées un nouveau compte, c'est effrayant. Oui, Philox, ouais. Des groupes incels qui jouent sur le manque de confiance en eux, exactement. Ouais. Bon anniversaire, crotte de licorne. Allez, les amis, c'est parti pour cette revue de presse. Je suis content parce que je trouve qu'il y a une actu qui est plutôt pas mal. Voilà, et on va partir. Alors, hop, interagir, je vous mets l'ETC 8h51 pour la France face au narcotrafic. Voilà. Et je vous laisse dire à tout le monde que à 9h, il y a MVP pour ceux qui vont nous rejoindre et qu'à ce soir à 20h, on fera une revue de presse plus complète encore. De quoi s'agit-il ? Question posée par la Croix ce matin. Hyper sérieuse. Est-ce que la France, notre pays, est à un point de bascule face au narcotrafic? Oui, pardon, c'est pas 9h, c'est 10h, MVP. Est-ce que la France est à un point de bascule face au narcotrafic? Les obsèques de Mehdi Kessassi, 20 ans, frère d'un militant associatif assassiné à Marseille jeudi 13 novembre, ont été célébrées mardi 18 novembre. Voilà. Ça, on en a parlé, nous, de cet assassinat. Hein, on soupçonne que cet assassinat de ce jeune homme, Mehdi Kessassi, qui se destinait d'ailleurs à rentrer dans la police, soit lié au combat politique de son grand frère qui lutte justement contre le narcotrafic. Voilà. Donc il y a une enquête qui est en cours. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a dénoncé un crime d'intimidation qui constitue un véritable point de bascule. On en a longuement parlé déjà sur cette chaîne. Si la situation en France reste sans commune avec celle observée en Amérique du Sud, certains signaux d'alerte sont préoccupants. J'ai lu l'article, je le trouve assez intéressant, je le partage avec vous ce matin. La question c'est, est-ce qu'un nouveau cap a été franchi en France en matière de narcotrafic? La question elle est super simple. Telle est la conviction du ministre de l'Intérieur. À l'issue d'une réunion à l'Élysée hier, Laurent Nunez a affirmé que l'assassinat de Mehdi Kessassi, ce jeune homme, hein, je crois qu'il avait 20 ans, jeudi dernier à Marseille, était un crime d'intimidation qui constitue un véritable point de bascule. Ce drame est sans doute un point de bascule effrayant, a également affirmé le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Les obsèques du jeune homme ont été célébrées hier à Marseille. Je rappelle les faits, tué par balle en plein jour. Ce jeune homme de 20 ans n'avait aucun lien avec le narcotrafic. Il était simplement le frère cadet, le petit frère, d'Amin Kessassi, militant écologiste, connu pour sa dénonciation très ferme du trafic de drogue. La question qui se pose, c'est, est-ce que ce jeune homme a été assassiné pour intimider son grand frère pour qu'il cesse son combat? En 2020, alors qu'il était en deuxième année de droit, il avait fondé l'association Conscience pour venir en aide aux habitants des quartiers touchés par le commerce de la drogue. Amin Kessassi, donc le grand frère, s'était engagé contre le narcotrafic après l'assassinat de son frère aîné. C'est une histoire de frère. Ah, l'aspirateur qui arrive. Dont le corps avait été retrouvé brûlé en 2020 dans le coffre d'une voiture. Voilà. Le militant associatif qui dénonçait haut et fort les agissements des trafiquants. En août, il avait été placé sous protection policière sans qu'on sache précisément à ce stade les motifs de cette mesure. Amin Kessassi était-il menacé à cause de son combat contre le narcotrafic? La perspective du procès l'an prochain des assassins présumés de son frère Brahim a-t-elle contribué à faire monter la pression, faute de pouvoir viser Amin, l'élu? Je crois qu'il était élu écologiste. Élu ou militant? Là j'ai militant. Mais je crois qu'il il avait été candidat à une élection. Voilà. Si vous tournez l'aspirateur, vous me dites c'est normal. Voilà. Faute de pouvoir viser Amin, les tueurs ont-ils ciblé Mehdi? Tout en soulignant la nécessité d'envisager toutes les hypothèses, Nicolas Besson, le procureur de Marseille, a indiqué que le crime d'avertissement était à ce jour, à ce stade, la piste privilégiée. Si cette piste, soyons prudents, devait se confirmer, Cela signifierait qu'un nouveau cap a été franchi en France. Ces dernières années, les groupes criminels n'ont pas hésité à avoir recours à des menaces écrites ou verbales contre des magistrats, des policiers, des greffiers, notamment pour tenter de les corrompre. C'est ce qu'explique une économiste et criminologue. Mais là, on serait à un autre niveau, avec un passage à l'acte visant un proche d'une personne n'appartenant pas à un groupe criminel. Tuer le proche d'un militant qui se bat contre le trafic de drogue. Ce serait du jamais vu en France. Alors, une fois qu'on a dit ça, peut-on pour autant affirmer que la France est en voie de mexicanisation ? Comme certains l'ont un peu dit dans ce chat ces derniers jours sur ce sujet d'ailleurs. Le terme utilisé en 2024 par Bruno Retailleau est réapparu ces derniers jours. Cette comparaison est tout à fait infondée, dit un expert du sujet. Au Mexique, depuis 2006, on a recensé près de 500 000 morts. Et plus de 55 000 disparus en lien avec le trafic de drogue. Que nous dit cet expert ? Bah, qu'en France, on n'en est pas encore là, quoi. 500 000 morts depuis 2006. Mais si la situation française reste loin de celle que connaissent certains pays sud-américains, merci Lupaseil, merci pour ton soutien, des signaux d'alerte sont apparus malgré tout ces dernières années. Il y a Lalemul qui me dit qu'en Belgique, un procureur avec sa famille est mis sous protection policière depuis juillet parce que sa tête est mise à prix par le milieu des narcotrafiquants. C'est un cancer, ce truc. Il y a Lazy Rushy dans le chat qui me dit « J'ai été mis en joue dans un quartier à Marseille, le parc Caliste. » Ah ça, je connais ça. « Pour avoir filmé un canard, il pensait que je filmais le point de deal et que j'étais un indique. » Donc les signaux d'alerte, quels sont-ils ? Le premier, le recours par les groupes criminels à des jeunes gens qui, désinhibés et motivés par l'appât du gain, semblent capables d'aller assassiner n'importe quelle cible désignée par leurs employeurs. Les narcos n'hésitent pas non plus à défier l'État, comme en avril dernier, quand des habitations d'agents pénitentiaires ont été visées à l'arme de guerre après l'annonce de la mise en place de deux prisons ultra-sécurisées visant à accueillir les trafiquants de drogue les plus dangereux. Dans son rapport 2025 sur l'état de la menace, l'Office anti-stupéfiant adresse une mise en garde très claire. L'exemple de pays européens, l'Europe balkanique, mais également la Belgique, dont quelqu'un nous parlait dans le chat il y a quelques secondes, ou les Pays-Bas. Merci Multimine pour d'avoir follow la chaîne, merci pour la force. Tu es venu pas très très longtemps, mais ça fait plaisir. L'exemple de pays européens comme l'Europe balkanique, la Belgique, mais aussi les Pays-Bas, conduit à projeter aisément les prochains paliers qui risquent d'être franchis en France par les narcotrafiquants ou des projets visant les autorités politiques, locales ou nationales, des autorités judiciaires ou administratives ciblées, des policiers, des journalistes, des avocats avec un risque élevé de passage à l'acte. Il se passe quelque chose aujourd'hui dans notre pays au jour du trafic de drogue. Il y a une montée de la violence spécifique à cette économie, si on peut l'appeler comme ça, criminelle, du narcotrafic. Il y a un vrai truc. Je pense qu'il ne faut pas se mettre des œillères là-dessus. Hein, il ne faut pas se mettre des œillères là-dessus. On a un vrai souci là-dessus. Excusez-moi, je reçois des... Quoi ? Qu'est-ce qu'on me propose ? Je sais pas ce que c'est ça. On me propose du taf. Bon, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Et j'apprends dans l'Humanité ce matin, dans d'autres journaux, mais j'ai choisi l'article de l'Humain, que, eh bien, on en prendrait conscience enfin au plus haut de l'État, qu'on a un vrai sujet, et que la lutte contre ce narcotrafic serait la nouvelle priorité de l'Élysée, deuxième article ce matin. Il y a Crotte de Licorne qui me dit « J'habite Perpignan et étant né à Paris, je suis impressionné de l'implantation en masse des points de deal ici. Voilà. » L'exécutif, donc, nous dit l'Humain ce matin. Appel à amplifier le combat contre le trafic de drogue. Un fléau qu'aucun gouvernement n'est parvenu à endiguer et qui devient un des thèmes de la campagne des municipales de 2026. Il y a eu une réunion hier à l'Élysée, me dit Camille. Il faut amplifier la lutte contre le trafic de drogue. Telle est la demande faite par Emmanuel Macron lors d'une réunion d'urgence organisée à l'Élysée. Donc c'était la réunion dont Camille parlait à l'instant. Hier, après plusieurs faits dramatiques survenus ces derniers jours, dont l'assassinat à Marseille du jeune homme dont je vous parlais à l'instant. C'est un combat qui ne fait que commencer, a prévenu devant l'Assemblée le Premier ministre en appelant à l'unité nationale et à s'inspirer de ce qui a été fait avec succès dans le passé en matière de lutte contre le terrorisme. Alors que le ministre de l'Intérieur, M. Nunez, demande d'aller plus loin dans la fermeté et les moyens mis en œuvre, il se rendra jeudi, donc demain, avec le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Darmanin, à Marseille. Et le Premier ministre Lecornu a déjà évoqué quelques pistes. À quoi va ressembler cette augmentation des moyens ou changement de méthode? On a l'impression qu'on radote un petit peu en la matière sur le sujet. Je pense que ce n'est pas le premier gouvernement qui nous promet de lutter efficacement contre le trafic de drogue. Qu'est-ce qui va changer? Quelles sont les pistes? Comme en matière de terrorisme, il préconise un décloisonnement entre le national et le local, entre tout ce qui relève de la police administrative et de la police judiciaire, ainsi que des coopérations internationales avec des pays où les commanditaires continuent de donner des ordres de se réfugier ou d'y blanchir de l'argent. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, veut mettre en place un régime transversal de sanctions européennes pour frapper les narcotrafiquants au portefeuille, qui permettrait notamment de geler leurs avoirs en leur interdisant toute transaction avec l'Union européenne et toute entrée sur le territoire. Je lis vos messages, notamment sur la légalisation. On va y revenir. Je ne vous ignore pas, c'est juste que je finis l'article, mais on va en parler. Je pense que c'est peut-être l'une des clés de ce problème. L'exécutif entend ainsi intensifier la mise en œuvre de la loi promulguée en juin pour lutter contre le narcotrafic, qui prévoit notamment l'installation d'un parquet national anticriminalité organisée, ce qui est nouveau, à compter du 1er janvier, sur le modèle du parquet national antiterroriste et du parquet national financier. Alors que Darmanin se gargarise sur les réseaux sociaux, que les trafiquants et notamment ceux qui dirigent des mafias marseillaises sont de plus en plus à cran parce que nous menons des actions qui sont extrêmement efficaces, dans les faits, le trafic continue de gagner du terrain. Les grands effets d'annonce, c'est bien, les moyens concrets, c'est mieux, a dit d'ailleurs l'avocat de la famille Kessassi, maître Mathieu Croiset, rappelant qu'il manque encore 30 magistrats dans la juridiction de Marseille. La question des moyens aussi. Je ne crois pas au tout répressif. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Le débat est lancé dans le chat sur la légalisation du cannabis. On a un État exsangue, sans budget, mais les narcotrafiquants, eux, se frottent les mains. Ils n'ont pas de problème de budget, eux, dit cet avocat. Pour preuve, les chiffres du trafic de stupéfiants qui s'est considérablement accru en France ces dernières années, entre 2023 et 2024, le trafic d'amphétamine et de méthamphétamine a connu une hausse de 33%. Les saisies totales de cocaïne par les services de police ont doublé pour atteindre 45 tonnes. Les volumes du narcotrafic représentent 3,5 milliards d'euros, fourchette basse, estimation en 2024, de Bercy. Cette montée en puissance ne date pas d'hier. Hein. On a l'impression qu'on radote un peu, qu'on a déjà entendu ces discours de fermeté, d'augmentation des moyens contre le trafic de drogue. Cette montée en puissance ne date pourtant pas d'hier. En 2011, le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée avait alerté sur les failles autour du trafic maritime, représentant l'une des principales menaces liées à l'arrivée massive de cocaïne en Europe. En 2024, le narcotrafic s'étendait aux grands ports maritimes comme le Havre, avec pour corollaire une augmentation des violences criminelles. Et les opérations PlaceNet XXL mises en place en 2024 ont montré une efficacité limitée selon la commission d'enquête du Sénat sur le sujet. Voilà. Le rapporteur d'une enquête parlementaire sur la question, en janvier dernier, a déclaré « La puissance publique ne s'est jamais attaquée à l'organisation de cette entreprise, le narcotrafic, en l'apprenant globalement. » Qui manquerait en France un plan global contre le narcotrafic. Des initiatives, des mesures à droite, à gauche, mais manque d'un plan global. La réponse sécuritaire, ben vous le savez, vous le constatez, nous le constatons, n'a pas enrayé les trafics. En parallèle, la réforme contestée de la police judiciaire compromet l'efficacité des investigations sur les réseaux criminels, dit un syndicaliste de la CGT. Le procureur de Marseille, lui aussi, dénonce l'insuffisance des moyens, pas seulement les avocats, en déclarant « Nous avons des policiers extraordinaires, mais nous n'en avons pas assez pour faire des enquêtes et des enquêtes complexes pour remonter les réseaux de blanchiment. » Il appelle le procureur de Marseille, les pouvoirs publics, à attaquer et répondre là aussi de manière systémique. Un jeu d'autant plus important que ce fléau est en passe de devenir un thème majeur des élections municipales de mars prochain. Ah, bah tant mieux. Maintenant, je vous lis. Enfin, je vous lis depuis tout à l'heure, mais maintenant qu'on a lu les infos. Bonjour Samuel, j'ai vu que tu étais à Educatech. Aujourd'hui, on se croisera peut-être. J'y suis à partir de 17h à Oli. À tout à l'heure. C'est pour ça que je ne veux pas de revue presse après, mais je vous en ferai une ce soir. Là, Le constat, il est là. Le constat, on a, c'est pas qu'il y a de la drogue en France, c'est pas du trafic de drogue, ça, il y en a depuis longtemps, mais on a l'augmentation, on a une augmentation des violences, des assassinats, des règlements de compte, en marge de ce trafic. Donc ça n'est pas que on vend de la merde pour la santé des gens et les gens en consomment en France, c'est il y a aussi une augmentation de la violence. C'est deux sujets finalement, enfin les deux sujets sont liés. Donc, et on a des villes moyennes, des villes qui n'étaient pas touchées par ce narcotrafic, en tout cas par cette violence, qui sont désormais touchées. Hein, c'est pas que Marseille, que Paris, vous savez, maintenant c'est Nantes, c'est Rennes, c'est beaucoup de villes. Voilà. La question c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et il faut faire quelque chose. Pour moi, c'est un des sujets prioritaires de notre pays. Parce qu'en plus, ce sujet, il vient nourrir cette insécurité. Il augmente l'insécurité. Non, ce n'est pas qu'un sentiment d'insécurité. L'assassinat du jeune homme de 20 ans à Marseille, là, en plein jour, hein, devant une pharmacie, de plusieurs balles, ce n'est pas un sentiment d'insécurité, c'est une insécurité. Voilà. Il y a insécurité et il y a un phénomène, et il y a un sentiment d'insécurité, du coup, qui va se développer. Et après, il y a des gens qui vont surfer là-dessus. Pour proposer des mauvaises réponses à ces questions. Donc il faut absolument s'emparer de ce sujet et le traiter. Donc clairement, il faut mettre des moyens. Il y a Chinois qui dit qu'il faut notamment légaliser les drogues douces pour mieux s'occuper des drogues dures. Je ne sais pas si c'est la solution. À mon humble avis, je pense que oui. Si j'étais élu en 2027, je ferais un point d'abord sur toutes les études qui ont été réalisées au niveau international sur les pays qui ont mis en place la légalisation du cannabis pour voir comment ils ont fait, est-ce que ça a fonctionné, quel a été le résultat. Voilà. Et si on se rend compte qu'effectivement c'est une solution, eh bien on met en place la légalisation du cannabis, une vente encadrée par l'État, par une régie publique d'un produit dont la qualité serait d'ailleurs vérifiée, voilà, comme la vente d'alcool en France est encadrée, voilà, avec des taxes là-dessus, ce qui permettrait, un, de contrôler le produit qui est distribué aux gens, qui est vendu aux gens, voilà, deux, qui permettrait de mettre une taxe sur ce truc qui aujourd'hui relève de l'économie informelle. Et puis, tous les revenus de cette légalisation, eh bien, on le flécherait, je ne sais pas si ce serait suffisant, hein. Tous les revenus de cette légalisation et de finalement de cet encadrement par la puissance publique, on le flécherait vers la lutte contre le trafic de drogue, les drogues qu'on va qualifier pour faire simple de dures, et la criminalité qui y serait liée. Parce qu'on voit qu'il y a un problème de moyens, de magistrats, de policiers, dans la lutte contre le trafic de drogue. Qui est un sujet compliqué, donc on n'éradiquera pas en quelques semaines, quelques mois. Quoi. Voilà. Alors c'est une piste. Je ne dis pas que c'est la solution, mais je pense que c'est une piste. Voilà. Voilà. Et donc, est-ce que la vente de drogue des dealers resterait légale ou ça reste toujours pénalisé ? Ben en fait, il y aura un monopole d'État sur la distribution, la vente encadrée de cannabis. Donc, toute vente en dehors de ce cadre monopolistique et d'une régie publique sera interdite. Donc, le petit dealer qui veut dealer du cannabis dans son quartier, c'est non. Ce serait un monopole d'État. Alors, ce serait interdit pas tant parce que ce serait illégal en tant que tel, puisqu'on aurait légalisé, mais ce serait interdit parce que ça doit être déclaré, quoi. Voilà. Parce que moi, je veux taxer le truc, pour que cet argent, il serve à lutter contre le trafic de drogue dure. Ce sera trop taxé, donc trop cher, les consommateurs iront toujours vers l'achat illégal. Bah ça, King Julian, c'est justement l'étude de toutes les initiatives dans les pays qui l'ont mis en place qui nous permettrait de nous le dire. Est-ce que la légalisation fonctionne ? Je pense qu'on a suffisamment d'expérimentation au niveau international. On en a une actuellement chez nos voisins allemands. Hein. Aux États-Unis, dans certains États, je crois que c'est le cas aussi. Et il faudrait d'abord commencer par se pencher sur ça. Parce que c'est une vraie question. Est-ce que la légalisation suffirait ? Est-ce que les gens ne continueraient pas à acheter dans la rue, quoi ? Il faut trouver un système qui fonctionne, où les gens n'aient plus envie d'acheter dans la rue. Allons, voilà. Allons voir les Pays-Bas, allons voir le Québec, allons voir l'Allemagne. Il y a suffisamment d'exemples pour voir ce qui a marché ou pas marché. On n'est pas plus con que les autres, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc je pense qu'il y a un truc à faire dans notre pays là-dessus. Voilà. Donc voilà moi ce que je propose. Bon. En tout cas, je suis content qu'on en parle de plus en plus dans notre pays, parce que c'est un vrai sujet, et qui vient nourrir en plus une peur, enfin un truc. Vous savez, j'ai des discours en disant on est plus à l'abri nulle part, on n'est plus en sécurité dans notre pays, qui vient nourrir les populistes de toute espèce. Hein, qui a de vrais problèmes, vous propose pas forcément les bonnes solutions. Voilà. Donc c'est un vrai sujet qui dépasse de très très loin la question du trafic de drogue. Voilà. Rapidement, parce qu'on y reviendra plus longuement ce soir, je vous signale aussi cet article dans Le Parisien d'une initiative personnelle d'un monsieur qui part en croisade contre le protoxyde d'azote qu'on appelle le gaz hilarant. Hein, il y a beaucoup de jeunes qui consomment ça de façon anodine en se disant c'est pas grave, hein, c'est pour et en fait si c'est grave, ça peut vraiment niquer totalement votre santé. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, je vous le rappelle. Voilà, et donc je vous parle de cette initiative ce matin d'un monsieur qui s'appelle Arnaud Dalby, qui je crois dirige une clinique, et il assiste chaque jour au ravage de cette substance dans notamment dans sa région. Il travaille dans les Yvelines. Il vient de créer une association baptisée Stop Ballon pour alerter les jeunes. Hein, les ballons de protoxyde d'azote. La guerre est déclarée parce qu'il ne supporte plus de croiser des jeunes devenus subitement handicapés. Écoutez, si dans le chat certains consomment ce truc-là, cette daube-là. Écoutez. Arnaud Dalby, propriétaire d'une clinique de Mantes-la-Jolie, a décidé de sortir l'artillerie lourde contre le protoxyde d'azote. Donc il vient de créer cette association, donc Stop Ballon. Voilà. Initiative inédite témoigne des ravages, en particulier chez les jeunes, de cette drogue légale, dont l'utilisation peut avoir des conséquences dramatiques. Et je suis sûr qu'il y a plein de jeunes gens qui consomment cette daubasse qui ne le savent pas. Hein. Le grand public en a découvert les conséquences tragiques le 1er novembre, après la mort de Matisse, étudiant de 19 ans, victime dans le nord d'un chauffard sous l'emprise du protoxyde. Dimanche, c'est une jeune femme de 18 ans qui a été retrouvée morte dans son appartement de Roubaix, où une trentaine de bonbonnes de protoxyde d'azote jonchaient le sol. C'est un vrai fléau. Tempête Arnaud Dalbis, depuis 2 ou 3 ans, nous avons chaque année 5 à 10 gamins pris en charge en rééducation. Sugar me dit qu'en école d'ingé, on retrouvait plein de douilles par terre. Voilà. Depuis 2 ou 3 ans, nous avons chaque année 5 à 10 gamins pris en charge en rééducation, pas pour des symptômes légers. On parle de jeunes de 20 ans qui doivent vivre avec une sonde urinaire, qui ne savent plus qui ils sont, qui sont apathiques. Selon des données de Santé publique France qui remontent à 2022, qui sont forcément un peu datées, 14% des 18-24 ans auraient déjà essayé ce protoxyde d'azote. Voilà. Le monsieur qui lance l'initiative compte se lancer à l'assaut d'une partie des 112 collèges des Yvelines pour sensibiliser les ados au danger de cette nouvelle drogue récréative. Merci Armel Rose. Voilà. Il a bien raison. Pour les toucher, Arnaud Dalbis promet de bousculer les collégiens. Je veux être dans le concret avec eux, quitte à leur faire peur. Quand on parle de sonde urinaire ou de problèmes d'érection, bon, les garçons, les plus jeunes qui nous regardent, on est mercredi, il n'y a pas école. Les gars, hein, s'il n'y a que ça qui vous motive, sachez que ça provoque des problèmes d'érection. Voilà. Je sais pas, c'est un argument, hein? Tu vois, il y a Istris qui me dit, je suis infirmier anesthésiste, on a opéré un gamin de 18 ans qui a convulsé, plus anoxie sur la proto, chute et fracture cervicale, voilà, il ne marchera probablement plus. Voilà, on a des témoignages. J'ai en tête le cas de cet ado de 17 ans devenu tétraplégique, il en consommait depuis l'âge de 15 ans. Il lui a fallu des mois de rééducation pour retrouver une forme d'autonomie. L'an passé, un autre de 27 ans est venu me voir une première fois après ses premiers symptômes. Il a promis qu'il arrêterait, et puis il a craqué. La seconde fois qu'il s'est présenté dans le service, il était paraplégique, il devait se marier. Voilà. Le problème du protoxyde, c'est qu'il présente un effet cumulatif. Quand les symptômes apparaissent, le système nerveux est déjà touché. À la première alerte, disent les médecins, on peut encore intervenir et rattraper les dégâts. Au prix d'une lourde rééducation, ça n'est pas léger, et d'une supplémentation en vitamine B12, mais à la deuxième ou troisième crise, c'est trop tard. Et les paralysies peuvent être définitives. Hein, ne touchez pas à cette daube, en fait. Voilà. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Et on en reparlera ce soir. On lira ce soir, par exemple, à partir de 20h, le témoignage d'un médecin, d'un neurologue, qui s'appelle Guillaume Fargeau, qui explique vraiment de façon carrée quels sont les dangers de cette drogue. Jojo Anna, pour en avoir vu des patients jeunes à l'hôpital en tant qu'infirmière, ça peut vraiment faire de gros dégâts au niveau neurologique avec des séquelles irréversibles. Merci, mon mouraine des mouettes. Rua Dadidou me dit que Tataki avait fait une vidéo là-dessus. Le problème, c'est comment les convaincre de ne pas en prendre ou d'arrêter, faire de la prévention, demande Loom. On a tous été ados, c'est difficile d'aller contre les mouvements de jeunes. Bah, il faut leur parler. Il faut leur parler, il faut les sensibiliser. D'où la démarche de ce monsieur qui va aller dans les collèges pour en parler. À notre petit niveau, c'est ce qu'on fait ce matin, parce que vous êtes... peut-être que certains dans le chat sont concernés. Hein ah, les dangers du gaz hilarant, j'avais pas mieux. Ah mince, j'ai pas changé le... On a commencé à en parler quand, les dangers du gaz hilarant, en termes de timing? J'avais pas 9h, peut-être 9h05, peut-être 9h05, peut-être. Ne, 9h10, ok. Ouais, je mets 5 minutes, moi je mets 9h12, ok. Voilà. Et je me dis que certains sont peut-être concernés dans le chat, certains aussi connaissent peut-être dans le chat des jeunes concernés, c'est plutôt des jeunes, et je me dis que bah, ça commence par là. Parlons-en, voilà. Expliquons à ces jeunes que les conséquences pour leur santé peuvent être dramatiques. Quoi. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle ce matin, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai. Ok, je vais vite. Hein. On va très vite sur l'actu ce matin parce qu'on n'a qu'une heure et demie. Ce soir, je vous ferai une revue de presse un peu plus complète où on prendra un peu plus le temps. Voilà. On aime mettre des têtes sur Valo, mais ce soir, 20h, ce sera une revue de presse pour que tous les jours, il y ait vraiment une revue de presse complète. C'est un peu le projet. Maintenant, on va parler de Thunas et de Richou et d'impôts. Voilà, j'actualise. Voilà, il est 9h18. Ok. Avec notamment ce constat, alors qui est un article dans Libération, mais qui n'est pas que dans Libé, c'est un vrai constat. En France, les ultra-riches sont de plus en plus riches. Les ultra-riches, les très 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 riches. D'accord ? Sont de plus en plus riches. Ça, ce sont des chiffres de l'INSEE, bon, c'est pas tellement contestable. Dans son portrait social annuel publié jeudi, l'INSEE révèle l'augmentation du niveau de vie des plus aisés en 20 ans, les aisés. En cause, le versement des dividendes, la baisse du taux d'imposition des plus hauts revenus entre 2003 et 2022. On va voir les chiffres. Okay, les revenus des plus aisés s'envolent pendant que le taux de pauvreté grimpe. En France. Cet été déjà, l'INSEE constatait le creusement de la fracture sociale, pointant une hausse du niveau de vie médian en 2023 qui bénéficiait aux plus aisés, alors que celui des ménages les plus modestes reculait. Cette fois, dans son portrait social publié mardi, l'INSEE observe une augmentation du revenu moyen des foyers à très haut revenu, okay, les riches des riches, entre 2023 et 2022, donc sur 20 ans. Bien plus rapide que pour tous les autres. Not a news, dit Descent. Ouais, mais c'est bien d'avoir des chiffres. Parce que quand vous allez en discuter avec des gens qui ne seront pas d'accord en vous, en disant ouais, arrêtez de taxer les riches, arrêtez de taxer ceux qui. Blablabla, vous pourrez dire ouais, vous pourrez sortir les chiffres. Les gens qui vont dire c'est pas vrai ce que tu dis. Voilà. Donc, pas nouveau. Alors, c'est bien de passer d'un sentiment, d'une impression à une info. Et là, on a les chiffres. De qui parle-t-on ? On parle de 40 700 foyers fiscaux, c'est que dalle. Hein. On est combien d'habitants en France déjà ? 40 700 foyers fiscaux au niveau de vie élevé qui appartiennent aux 0,1% les plus aisés de la population en matière de revenus déclarés. D'accord ? Donc on parle des feuilles d'imposition, des déclarations d'impôts, et on parle des 0,1% des plus riches. C'est pour ça que je parle des ultra-riches. C'est pas les riches, c'est pas les très riches. C'est les ultra-riches, 0,1%. Le portrait robot. Ils sont le plus souvent franciliens, donc ils habitent en région parisienne. Urbains, mariés ou paxés, et gagne en moyenne 1 million d'euros par an. Revenu moyen, 1 million d'euros par an. On n'est pas sur les riches, on est sur les ultra-riches. En 2003, ces très hauts revenus gagnaient 21 fois plus que les autres foyers. D'accord ? En 2003, ils gagnaient, ces ultra-riches, 21 fois plus que les autres. En 2022, on est passé à 31 fois. Ok ? Donc, je vous lis les chiffres les plus importants pour qu'on comprenne bien. Voilà. Concrètement, disent les statisticiens, entre 2003 et 2022, donc en l'espace de 20 ans, si je ne dis pas de bêtises, le revenu moyen des foyers à très haut revenu a plus que doublé. Voilà. Alors que le revenu moyen du quart des foyers fiscaux les plus modestes a augmenté d'un peu plus de 20% seulement. Voilà. Sur ce sentiment, nous mettons des chiffres. Je vois un petit peu les explications. Alors, l'article explique dans le détail, on verra ça ce soir si vous voulez, à partir de 20h, pour le comment, le pourquoi de cette augmentation des revenus des ultra-riches. Et parmi les raisons, mais c'est pas la seule, il y a l'évolution de l'imposition, hein. La baisse du taux moyen d'imposition pour les ultra-riches, ce taux est passé de 29,2% en 2003 à 25,7% en 2022, soit une baisse de 3,5 points. Voilà. Donc on a une baisse de l'imposition, ça aussi ce sont des chiffres des ultra-riches. Résultat, en 2022, les 0,1% les plus aisés, donc les ultra-riches, ont payé moins d'impôts et contribué à peine un quart du total de l'IR, de l'impôt sur le revenu. En comparaison, les un peu moins riches, c'est-à-dire les 9,9% les plus aisés, ont contribué à hauteur de plus de trois quarts des recettes fiscales. C'est pour répondre à Gates31 qui me dit à l'instant dans le chat, tu as raison. Oui, mais s'ils gagnent plus, ils reversent également plus. En fait, ce que nous dit Libé, et ce qui, sans le savoir, est une réponse au dossier qui suit dans le Figaro, ce que nous dit Libé, c'est que oui, vous avez en gros 10% des Français les plus riches, 9,9% pour être précis, qui payent les trois quarts de l'IR, de l'impôt sur le revenu. C'est un scandale, entre guillemets, que dénonce le Figaro là. Mais Libé dit, c'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, effectivement, les riches, les 9,9%, payent une part plus importante de l'IR qu'avant. C'est ce que dénonce le Figaro là dans le sujet qui suit. En revanche, les ultra-riches, les 0,1%, eux, par rapport à il y a 20 ans, payent moins d'impôts. Voilà. C'est pour ça que je fais cette distinction permanente entre riches et ultra-riches. Voilà ce que dit le Figaro maintenant. L'impôt pèse toujours plus sur les hauts revenus. Et vous allez voir que ces deux dossiers qui ont l'air de s'opposer, en fait, ne s'opposent pas. Libé et le Figaro ne disent pas des choses contradictoires ou opposées. C'est juste qu'ils mettent pas le doigt sur les mêmes choses. Voilà. En gros, Libé nous dit il y a un sujet sur les ultra-riches qui ne participent pas finalement à la solidarité nationale comme ils devraient le faire. Exactement, Étienne, c'est deux perspectives différentes. Et le Figaro, qui plutôt que se focus sur les 0,1%, se focus sur les 10%, les 9,9%, qui arrivent en disant « Ah oui, mais les riches, les simplement riches, on va dire, eux payent trop d'impôts. » Voilà. Orage Mordu dit « Les ultra-riches se cachent derrière les riches. » C'est un petit peu ça. Voilà. Donc le Figaro, voici le dossier de ce matin. L'impôt pèse toujours plus sur les hauts revenus. Alors que la taxation des riches bat son plein à l'Assemblée, vous savez le débat sur la taxe Zucman, tout ça dont on a parlé pendant des heures ici, les trois quarts de l'impôt sur le revenu sont payés par les 10% des ménages les plus aisés, soulignent les derniers chiffres officiels. En cet automne où les députés se sont dépensés sans compter pour alourdir la fiscalité des ménages les plus aisés des entreprises, les derniers chiffres de la Direction générale des finances publiques viennent à point nommé, estime le Figaro. Il rappelle qu'en France, plus d'un foyer sur deux ne paye pas l'impôt sur le revenu. Bon, ça, c'est pas nouveau. Ça fait Moi, je vous le dis régulièrement, n'oublions pas qu'en France, il y avait un foyer fiscal sur deux qui ne paye pas l'IR. Ça veut dire qu'ils payent. Ça veut pas dire qu'ils payent pas des impôts et des taxes par ailleurs. Rappelons que la TVA, que tout le monde paye en consommant, en achetant sa baguette ou quoi qu'est-ce, cette taxe, c'est pas un impôt, c'est une taxe, cette taxe à la valeur ajoutée, tout le monde la paye. Donc, il y a un foyer fiscal sur deux qui ne paye pas d'IR en France, ça ne veut pas dire qu'il ne paye pas des impôts ou des taxes par ailleurs. Mais effectivement, ça n'a pas changé. Surtout les ménages du dernier décile, c'est-à-dire les 10% les plus aisés, s'acquittent à eux seuls de près des trois quarts de cet impôt. Et ça, c'est plus qu'avant. Je crois que longtemps, le truc, c'était que, en gros, les 10% les plus riches en France payaient 50% de l'IR. Et là, on est passé à 75%. L'an dernier, l'État a engrangé près de 10% de recettes supplémentaires de l'IR. Les riches ont fourni les deux tiers de ces rentrées, un constat qui n'empêchera pas le PS et LFI de poursuivre leur croisade fiscale. Donc, vous avez compris que le Figaro se sert de ces chiffres pour dénoncer une pression fiscale qui serait trop forte en France. Or, si on regarde les chiffres, la pression fiscale sous Macron, sous les deux mandats de Macron, elle a baissé. C'était l'un des piliers du programme électoral d'Emmanuel Macron. C'était de baisser la pression fiscale en France pour les particuliers, pour les entreprises, puisqu'on est, ça aussi, ça pour le coup, c'est un fait, un des pays de l'OCDE où la pression fiscale est la plus importante. Voilà. Ça, il faut le reconnaître aussi. Donc le président Macron, il s'est fait élire avec un programme qui voulait faire baisser cette pression fiscale. Elle a baissé cette pression fiscale. Elle a baissé. Voilà. Donc ça, c'est un fait. Pour ceux qui payent des impôts, c'est-à-dire pour les plus aisés. Alors lisons les chiffres. En 2025, les contribuables imposables à l'impôt sur le revenu, moins de la moitié du total des foyers, se sont vus réclamer environ 92 milliards d'euros. Ok. C'est une hausse de 9,9% par rapport à l'année précédente. Ok. Alors que le débat budgétaire porte actuellement sur les moyens de mettre davantage à contribution les plus aisés, ouais, des chiffres officiels montrent que ces derniers, les aisés, participent largement aux recettes fiscales. Les foyers du dernier décile, les 10% les plus aisés, s'acquittent à eux seuls de près des trois quarts de l'IR, de l'impôt sur le revenu. Voilà. Sans tenir compte, rappelle le Figaro, de la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui a été mise en place, je crois, l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises, et des recettes de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF. Voilà. Que dit le Figaro ? L'éclairage de la Direction générale des impôts montre à quel point cet impôt, l'IR, historiquement concentré, l'est de plus en plus. C'est vrai. C'est vrai. Les foyers du dernier décile, donc les 10% les plus riches en France en termes de revenus, s'acquittent à eux seuls des près des trois quarts de l'impôt sur le revenu. C'est plus qu'auparavant. C'est vrai. Cette concentration s'intensifie à mesure qu'on escalade l'échelle des revenus. Voilà. Mais c'est normal, puisque notre système, c'est un système de tranches où plus tu as la chance d'avoir un revenu annuel important, plus tu rentres dans des tranches marginales d'imposition élevées. Jusqu'à 45%, je crois, au-delà de 180 000 euros de revenus annuels, nous rappelait quelqu'un tout à l'heure dans le chat. Cela s'explique, dit le Figaro, effectivement. En partie par la mécanique même du barème. En effet, sur les 5 tranches que compte l'impôt sur le revenu, les deux dernières concernent uniquement les 10% les plus aisés. Voilà, impôt progressif, donc normal, il n'y a rien de très très surprenant là-dedans, quoi. Alors, quelle conclusion en tire le Figaro ? C'est ça qui nous intéresse ce matin. Après, je vais devoir lire l'édito du Figaro. Bon, l'article, il est surtout un rappel des faits, en fait. Il n'est pas tellement éditorialisé. En revanche, l'édito, lui, il est éditorialisé. Forcément pour un édito. Et il est là. Attends, je vous le mets là. Furia fiscale, Gaëtan de Capelle. Quel enseignement en tire le Figaro ? Ou plutôt, quel enseignement en tire Gaëtan de Capelle ? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Lisons. Entre autres surprises, le débat parlementaire sur le budget 2026, qu'on a suivi ici, a donné lieu à un extraordinaire détournement d'objets. Souvenons-nous, avec des comptes publics en déficit de 170 milliards d'euros et une dette de 3500 milliards, les députés étaient initialement priés de trouver partout des économies afin de stopper l'hémorragie. Un mois après le début des discussions, personne n'a vu le moindre début de commencement d'une coupe dans la dépense publique. En lieu et place de la rigueur promise, s'est installé un débat lunaire sur un besoin supposé de justice fiscale. Et voilà comment, grâce à l'imagination fertile de la gauche et du RN, parce que c'est vrai que la gauche et le RN ont voté des augmentations d'impôts, hein, dans les discussions à l'Assemblée, mais qui pourront peut-être ne pas se retrouver du tout dans le texte final du budget. Parce que ça, je vous l'ai déjà expliqué, c'est pas parce que ça a été voté à l'Assemblée que, après le passage au Sénat et après un éventuel passage en commission mixte paritaire, voire un passage par ordonnance, ce qui a été voté va finalement s'appliquer. Donc soyons prudents avec ce qui a été voté. Mais c'est vrai que la gauche et le RN ont voté des augmentations d'impôts. Voilà. Les 40 milliards d'économies sont devenus 40 milliards d'impôts nouveaux, estime le Figaro, essentiellement sur les entreprises et les gros patrimoines. Ce n'est pas des augmentations pour tout le monde. Les faits pourtant sont têtus, estime Gaëtan de Capelle. La justice fiscale fonctionne déjà en plein régime en France, ce qui est un modèle de redistribution. C'est un fait. C'est un fait. C'est-à-dire que, oui, la France est un pays de l'OCDE où la charge de l'imposition, taxes et impôts, est les plus fortes. Oui. Oui, la France est l'un des pays les plus redistributifs au monde. Oui. Une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être encore plus redistributif d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai. Pendant que plus de la moitié des foyers ne payent pas l'impôt sur le revenu, 10% des plus hauts salaires assurent les trois quarts des recettes. Les mêmes taxés également sur leur capital et leur immobilier se trouvent dans le viseur au titre de contributions exceptionnelles ne demandant qu'à devenir définitives. Obsession égalitariste, jalousie de la réussite, là on part dans l'analyse et plus dans les chiffres, traque du riche. Dans l'ambiance plombée du moment, leur succession, ce truc qui tombe du ciel, fait aussi l'objet de toutes les convoitises. Au point où en sont les choses, la limite du consentement à l'impôt, cette zone située entre la contrition que chacun accepte de payer au nom de la solidarité et le sentiment de faire injustement se faire déposséder, approche dangereusement. Signe des temps, de nombreux contribuables mettent en place des stratégies d'évitement quand ils ne songent pas à partir sous des cieux plus cléments. Si au moins cette furia fiscale était utile, c'est hélas tout le contraire. Une fois la purge administrée, la France aura affaibli ses forces vives sans avoir réglé en rien le problème de sa dépense publique excessive. Bon, qu'est-ce que nous dit le Figaro ? Que le problème en France, c'est pas un problème de recettes, c'est un problème de dépenses. On dépense trop. Bon, c'est une vision classique, on va dire, pour simplifier, de droite conservatrice libérale. Quoi. On dépense trop, on redistribue trop, on taxe trop. Voilà. Et qu'en France, il faudrait, comme l'a fait le président Macron d'ailleurs, baisser les impôts pour les particuliers et les entreprises plutôt que les augmenter. Le Figaro dit aussi c'est honteux, il y a une grosse partie des Français qui ne payent pas du tout d'impôts, enfin ils ne payent pas du tout d'impôts sur le revenu, ce qui n'est pas la même chose. Il n'y a pas que l'IR en France, on parlait de la TVA tout à l'heure, et c'est injuste, il n'y a que 10% des Français, les foyers les plus riches, qui payent 75% de l'IR. Voilà. Mais vous avez vu que Libération met le doigt ailleurs. Libération reconnaît également ces chiffres, mais dit le souci, c'est pas tellement que les 10% les plus riches payent 75% de l'IR. Le souci, c'est que les 0,1% les plus riches, les ultra-riches, eux, ne participent pas à la solidarité nationale comme ils devraient le faire. Sous-entendu, d'ailleurs, comme le font les 9,9% des Français les plus riches par ailleurs qui ne sont pas dans les 0,1% si vous suivez mon raisonnement. Voilà. Et d'ailleurs, le débat sur la taxe Zucman, c'est ce même débat. La taxe Zucman qui a été écartée, hein, ça n'est pas pour taxer les riches en France. La taxe Zucman, c'est pour taxer les ultra-riches, les 0,1%. Donc on est toujours sur ce même débat. On est toujours sur ce même débat. Voilà. Je vous lis un petit peu et on enchaîne. Et la politique, ça n'est que ça d'ailleurs. C'est un moment, qu'est-ce qu'on veut faire? Avec quels moyens? On parlait de la lutte contre le narcotrafic tout à l'heure. Voilà. Si on veut lutter contre le narcotrafic, quels moyens on met et comment on le finance? Et en fait, la politique, c'est ça. Mon cerveau et les maths ont abandonné là. En vrai, ça amuse, ça va en vrai. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que le Figaro et Libération donnent les mêmes chiffres, c'est juste qu'ils mettent le curseur d'analyse pas au même endroit, quoi. J'ai vraiment mon épicier du coin qui pensait que les taxes Zucman étaient pour lui. C'est combien déjà le patrimoine à partir duquel la taxe Zucman taxait? Rappelez-moi, j'ai oublié, parce que comme ça a été comme à l'Assemblée, à partir de combien, à partir de quel niveau de patrimoine la taxe Zucman intervenait? Vous vous en rappelez? 100 millions. À partir de 100 millions d'euros de patrimoine. Voilà. Et tu me dis que ton épicier au coin de ta rue, il pensait qu'il était concerné. Voilà. Là, on a un problème de circulation de l'information, quoi. Ou alors c'est un très gros épicier, quoi. Voilà. C'est peut-être de l'épicerie fine, ouais. C'est peut-être de l'épicerie fine. Voilà. Bon, on en reparlera ce soir, hein. Voilà. Cette revue de presse ce soir sur le sujet. Pardon pour ceux qui du coup étaient là ce matin, parce qu'on va un peu se répéter, mais bon, on prendra peut-être un peu plus le temps, quoi. J'entends Brest Comet. Lisons Brest Comet. Bonjour à tous, bonjour à toi. Ce n'est qu'un témoignage et cela ne vaut rien de plus que cela. J'ai la grande chance d'être dans la tranche des 10% qui paient les trois quarts de l'impôt sur le revenu. La tranche basse, précises-tu. Je le dis même si en France c'est un peu tabou. Je ne me plains pas de payer des impôts car je sais à quoi ils servent. École, santé, infrastructure. Mais le sentiment de cracher au bassinet en permanence est réel. Pas par rapport aux ménages ne payant pas l'impôt sur le revenu, mais par rapport aux ultra-riches. Car les trois... Ah, il manque la fin de ton message parce que c'était trop long. Ah, car les 3% de baisse de l'impôt des 0,1% sur les 20 dernières années pour les plus aisés seraient non négligeables pour alléger ceux qui ont entre 10 et 0,1% des plus riches. Ben, je suis bien d'accord avec toi. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et c'est là où en France on mélange un petit peu tout d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui se sont opposés à la taxe Zucman en pensant que elle allait frapper beaucoup de gens alors qu'on est sur une ultra minorité de foyers. Je pense qu'à partir de 100 millions d'euros de patrimoine, on est bien. On est plutôt OK. Et que quand on a la chance de faire partie de cette catégorie de la population française, je crois qu'on parle de 1800 foyers, 1800 familles. Quand on a la chance de faire partie de ces 1800 foyers, on peut participer un peu à la solidarité nationale. Voilà, c'est tout. J'ai des flèches de retard, j'ai des flèches de retard. Non? Ah, la concentration de l'hier, j'ai une flèche de retard, ouais. Vous avez raison. Bon, c'est pas très grave. Donc du coup, on va mettre la concentration de l'hier, on va estimer la concentration de l'hier, vite fait. Quand est-ce que j'ai commencé à parler du Figaro? Bon, je dirais il y a 10 minutes, non? Ouais, 9h28 peut-être. Ouais, 9h28, c'est bien. Allez, hey, il y en a un peu plus, madame, je vous le laisse. Let's go. Voilà. Et là, on va parler du service militaire. 9h39. On arrive quand même en 1h30, à parler de pas mal de choses. Hein. Eh bien, cette petite revue de presse express. À 10h, on a MVP. Hein. Voilà, très bien. Comment ça, 100 millions d'euros de patrimoine, c'est OK, espèce de communiste? Il faut taxer les ultra-riches tout simplement parce qu'ils ne cotisent pas assez par rapport à la moyenne. Panokovitch, c'est exactement ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. En fait, je crois que ce débat-là, c'est pas de demander aux ultra-riches de contribuer de façon exceptionnellement gigantesque, importante, à la solidarité, à la redistribution nationale. C'est juste de payer ce qui est juste, en fait. Voilà. Alors, le service militaire. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Je découvre ça dans l'opinion. Alors, sur le coup, je me dis, je vois le titre. Un titre, forcément, c'est quelques mots, donc ça résume parfois très approximativement l'info. Ne vous fiez pas au titre. Là, vous lisez le grand retour du service militaire, vous avez l'impression que, comme Papy Sam, vous allez devoir partir sous les drapeaux avec un fusil, un uniforme pendant 10 mois. Voilà. À mon époque. Non, je vous rassure. Enfin, je vous rassure, peut-être que certains veulent le faire. Hein. T'as pensé quoi ton service militaire, toi? J'ai bien aimé, moi. Ça allait. Jacques Chirac avait mis fin à la conscription, ce que moi j'ai vécu, hein, pour les garçons, parce qu'on rappelle que les filles n'étaient pas concernées. 3 décennies plus tard, Emmanuel Macron compte réinstaurer une mobilisation sous les drapeaux, mais sous base volontaire, sur base volontaire. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec ce que les générations passées ont pu connaître, puisque ce serait sur base volontaire. Alors qu'à l'époque, le service militaire, tu n'avais pas trop le choix, quoi. La guerre en Ukraine a rappelé la nécessité de disposer d'un réservoir de forces humaines pour tenir le choc d'un conflit. Comme d'autres pays européens, la France cherche donc la bonne formule actuellement pour renforcer sa défense nationale en sensibilisant sa jeunesse à travers la réinstallation d'outils. Voilà, ça c'est pour répondre à Quintin 31 qui dit rien à voir, plus aucun intérêt. Certains estiment, certains spécialistes de géopolitique, certains spécialistes de défense, que notre pays, comme d'autres pays européens, pourrait être concerné, confronté à une menace militaire dans les prochaines années, les prochaines décennies. Salut Bordeaux. Bordeaux Live, j'adore ce nouveau Samuel Etienne. Tu prenais position à la télé aussi sur France Info en mode édito ou pas du tout? C'est très nouveau. Non, à la télé, non. Avant, je travaillais dans des rédactions, moi. C'est-à-dire que je faisais partie d'un projet rédactionnel. Un projet éditorial qui me dépassait, qui n'était pas France Info, c'était pas la chaîne de Samuel Etienne, c'était France Info. Donc je bossais là parce que j'étais à peu près OK avec ce qu'il faisait, mais je me mets au service d'une ligne éditoriale. Voilà, je donne pas mon avis toutes les 2 minutes sur une chaîne qui ne m'appartient pas. L'avantage de créer une chaîne Twitch, c'est de, bon, en gros, d'abord de faire des choses que t'aimes, donc parler d'actu, jouer aux jeux vidéo, et puis d'en parler avec les autres. Bon, ça fait deux. Et puis trois, de temps en temps de donner ton avis en disant bien que ça n'est que ton avis, que ça n'est que ton avis. Et que ça n'est pas grand-chose. Merci Babati pour ton soutien. Voilà. Et donc cette liberté, elle est fascinante. À ceux qui en ce moment essaient de m'attraper la veste, mais bon, je suis un peu habitué sur certains sujets, les violences faites aux femmes ou la qualification du Rassemblement National comme un parti d'extrême droite, je dis, mais les gars, créez votre chaîne, quoi. Créez votre chaîne. Si vous voulez faire entendre votre voix plutôt que me dire que moi je n'ai pas droit de le dire, bah, créez votre chaîne, exprimez-vous. Voilà. Plutôt que passer votre temps à m'insulter, à m'envoyer des mails de menaces ou des DM de menaces ou de m'attraper ma veste sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, bah, exprimez-vous avec un. Ouais, dites pourquoi vous pensez ça? C'est ce débat qui m'intéresse. Voilà. Donc, mais je le vis très très bien. S'il y a des. Je prends un exemple concret. Je veux dire, s'il y a des gens qui ont envie de porter une parole qui serait le regard du Rassemblement national sur la société et sur la vie, mais qui créent leur média, qui créent leur chaîne Twitch, personne ne les empêche en fait. C'est pas très très compliqué en vrai. Donc cette liberté d'expression, elle est intéressante. Comment vas-tu? Les habitués de MVP le savent, la revue de presse elle est un peu plus courte le mercredi, et il y a un moment assez intéressant, c'est quand Clotilde vient me maquiller, parce qu'on a un joli plateau MVP là, qui est prêt à nous accueillir, qui est juste devant moi, que je vais rejoindre dans 15 minutes. Donc ne soyez pas surpris, Clotilde est là, ça va Clotilde? Voilà. Et vous allez voir, on va passer d'un Samuel Etienne lambda à un Samuel Etienne magnifique, grâce au talent de Clotilde. Voilà. Et je vais continuer à vous parler pendant ce temps-là, mais je vais juste bouger un peu mon casque. Merci, ça va Clotilde? Tu vois? Voilà. Donc, comment ça, la poudre? Voilà. Et vous pouvez dire bonjour. Ah, j'allais dire, vous pouvez dire bonjour à Clotilde. Toweli dit bonjour Clotilde. Erendil dit bonjour Clotilde. Clotilde de la Gaute. Voilà, j'aime bien ça. On veut que Clotilde participe au live avec nous. Clotilde, il faudrait que tu nous rejoignes un jour. En vrai, MVP, c'est un métier où on parle. C'est une émission où on parle des métiers. On n'a pas parlé des métiers liés à l'esthétique, au maquillage, tout ça. Moi, je pense que Clotilde. On pourrait inviter Clotilde. Oh, t'as plein de bonjour. C'est adorable. Voilà. Donc, les amis, je continue sur cette histoire de service militaire, service national, puisqu'en gros, on a encore 15 minutes ensemble. On a commencé tôt ce matin. Voilà. Opération extérieure. Menace russe. J'ai mis le TC? J'ai mis le TC. Modernisation des matériels. La pile de dossiers. Attends, je t'enlève ça pour que tu sois plus à l'aise. La pile de dossiers à traiter ne cesse de s'élever sur le bureau du chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon. Mais il y en a une plus importante que les autres, celui portant sur un retour du service militaire en France. Clotilde met des paillettes de fée. Ça, c'est parti ! Cet aviateur, le chef d'état-major, c'est un aviateur, le sait d'autant mieux que la demande lui a été directement exprimée par Emmanuel Macron, dont il a été le chef d'état-major particulier jusqu'en juillet dernier. À un an et demi de la fin de son mandat, le président de la République souhaite en faire un héritage fort de son passage à l'Élysée et devrait prochainement faire des annonces. Donc on a peut-être des annonces. Merci Sidness pour le soutien et ton message. On a peut-être des annonces à venir sur le retour d'un service national militaire sur la base du volontariat. Et vous allez voir qu'il ne concerne pas beaucoup de gens en vrai. Il y a des chiffres qui commencent à circuler. Il n'est pas question de rétablir donc une conscription obligatoire, assurez-vous, dont Jacques Chirac avait proclamé la fin en février 96. Moi, je suis en service militaire en 94-95, je crois. Je fais partie des dernières générations à avoir fait son service militaire. Comme il l'a annoncé lors de ses vœux aux armées en janvier dernier, l'actuel chef de l'État souhaite la mise en place, écoutez bien, d'un service militaire reposant sur le choix individuel pour permettre à une jeunesse volontaire d'apprendre avec les armées et d'en renforcer les rangs grâce à des talents recherchés. Okay ? Après 3 décennies de pure professionnalisation, une armée de métier, on est passé d'une armée de conscription à une armée de métier, les forces françaises s'apprêtent à renouer avec ce modèle d'armée mixte, avec un peu de conscription, auquel elle avait renoncé après la fin de la guerre froide. Selon nos infos, hein, c'est les infos que l'opinion pense avoir trouvées, ce service militaire basé sur le volontariat devrait s'appeler service national, soit la dénomination instaurée en 65, puisque à l'époque déjà mon service militaire s'appelait Samuel, je ne sais pas si tu te rends compte, mais il y a une gentille maquilleuse qui te maquille en ce moment. Oui, je sais, beginner. Parce que déjà à mon époque on parlait de service national. Voilà. Sur les papiers officiels de démobilisation, on ne parle pas de service militaire, on parle de service national. Ça va Clotilde, tu y arrives ? Même le côté gauche ?
Ça va,
t'es gentil. Surtout ce service national marquera aux yeux d'Emmanuel Macron une forme de continuité avec le service national universel, le SNU, parce que je suis sûr que vous êtes plein à vous demander mais qu'est-ce que devient le SNU, qui n'a cessé de porter et de défendre depuis qu'il en a émis l'idée en 2017 lors de sa première campagne électorale. À regret, il a dû se résoudre à la fin du SNU, a priori c'est non pas le PMU, Toweli. À la fin du SNU, de ce programme à destination de volontaires de 15 à 17 ans, prévoyant un séjour de cohésion sous uniforme de 12 jours, vous vous souvenez, ayant une mission d'intérêt général. A priori, le SNU, c'est terminé, finito. Le SNU faisait l'objet de vives critiques des oppositions pour sa coloration militaire, alors même qu'il ne répondait finalement à aucun besoin des armées. Il a également été étrié il y a un an par la Cour des comptes pour son manque d'utilité et le coût. Il est où la suite ? Où est-ce que je l'ai mis l'article ? Ah, le coût ! Attends, où est-ce que c'est ? Ah, le coût d'une potentielle généralisation. Ok, d'accord. Dans un contexte budgétaire compliqué, le Premier ministre Le Cornu a donc acté en septembre sa disparition. Bon, on l'a un petit peu raté, ça. Vous saviez, vous, que le SNU avait disparu en septembre ? Il reste peut-être quelques jeunes encore en SNU, mais c'est terminé depuis septembre. Pour des raisons notamment budgétaires. Vous le saviez, vous ? Tu devrais faire plus de cheat, chat, make-up, parler en se maquillant, ça m'aide à me concentrer. Ok. Bon, ben on va proposer à Clotilde de venir tous les jours. Mais, il y a du nouveau. Voilà. Donc là, on planche sur un modèle de service militaire volontaire de nouvelle génération à mettre en place. Un mois ou une année. Un mois ou une année. Et pour combien de personnes ? La décision a été arrêtée, estime l'opinion. Donc, voilà. Le président, qui est le chef des armées, rappelons-le, veut que les armées puissent accueillir durant 10 mois, donc ce serait un service militaire sur la base de volontariat de 10 mois, comme celui que j'ai fait finalement, sauf que celui-ci est volontaire, chaque année un nombre de 10 000 jeunes, majeurs, volontaires, filles et garçons. Ça c'est à l'horizon 2030, pour monter jusqu'à 50 000 en 2035. Est-ce que les armées ont aujourd'hui les moyens d'accueillir ces jeunes ? Quelqu'un me disait tout à l'heure, mais c'est impossible, on a fermé toutes les casernes. Très bonne remarque. Assurément non. Voilà. Cette montée en puissance nécessitera l'adaptation des prise militaire, alors que des dizaines de casernes ont été fermées sous la présidence de Sarkozy, qui était résolu à l'époque de diminuer la ceinture, les moyens des armées. Voilà. Il faudra aussi dédier du personnel à l'encadrement de ces volontaires. Il n'est pas question de grosse augmentation du nombre de soldats professionnels. Donc, il y a un sujet d'accueil de ces 10 000, puis 50 000 jeunes. Que pensent les militaires de tout ça? Parce que vous rappelez que je ne crois pas que les militaires aient été super enthousiastes par le SNU. Mais que pensent les militaires de ce nouveau service militaire sur la base du volontariat pour 10 000 et 50 000 jeunes? Voilà. Les états-majors ne considèrent pas ces futurs volontaires comme un fardeau, mais comme une aubaine. Pourquoi? Car le vivier dans lequel ils puissent pour recruter chaque année 25 000 engagés, là on parle de militaires professionnels, va fatalement diminuer avec la chute actuelle du nombre de naissances. Vous savez qu'on fait moins d'enfants en France. Voilà. Donc les militaires trouveraient ça plutôt sympa de voir chaque année 10 000, avec une montée en puissance 50 000 jeunes, faire ce service militaire sur la base du volontariat, parce que potentiellement c'est des gens qui peuvent s'engager ensuite après. Voilà. Attendez, est-ce que les jeunes vont y aller? Question. Alors, le président Macron a un projet, les militaires sont plutôt OK, mais est-ce que les jeunes vont y aller? Pour encourager un maximum de jeunes Français à se porter volontaire, l'Élysée compte s'appuyer sur la journée de défense et citoyenneté obligatoire pour tous les Français âgés de 16 à 25 ans. Voilà. Avec une nouvelle journée, plus dynamique que sa version précédente, qui a été généralisée en septembre, hein, avec la Marseillaise chantée au lever du drapeau, des séances de tir laser, waouh, c'est quoi cette histoire? L'utilisation de casques de VR, ça a changé. Hein. Bon, okay. Il y a des gens qui ont fait la nouvelle journée là, de défense et de citoyenneté, manifestement elle a été toilettée. L'Élysée veut en faire un outil de promotion du nouveau service national, qui arriverait bientôt. Selon nos informations, pour marquer le coup de ces changements, elle compte la renommée journée de mobilisation. En fait, c'est un... Yazinedine Bitrate qui dit « En fait, c'est un laser game, le truc. » Voilà. Merci l'opinion, parce qu'il nous donne un petit peu les... Merci Clotilde. Pour remercier Clotilde qui... Voilà. Ah ouais, vous avez vu? Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Je suis magnifique pour accueillir dans un instant... on a qui ce matin? On a Ludovic B. Ah bah. Je peux mettre mon casque. On a Ludovic B qui arrive dans MVP. On a Lorraine Lévy qui arrive dans MVP. On a Marie Palot qui arrive dans MVP. Voilà pour un MVP donc consacré comme toujours à l'exploration de l'univers professionnel avec un coup de projecteur ce matin sur les emplois de la SNCF. Voilà. Et puis à midi, on a notre invité ce matin qui ne sera pas un cheminot, qui sera Mastu. Voilà, le créateur de contenu Mastu avec lequel on va revenir sur sa carrière. Son œuvre, voilà. Mastu à midi. Voilà. Et puis il y a un dernier sujet ce matin dont je voulais vous parler vite fait et dont on parlera ce soir à partir de 20h également, c'est Macron contre les algorithmes. Voilà. Tu voulais m'équiper? Salut. Oriette. J'arrive les amis, je me mets du son. J'ai l'impression d'être une voiture de Formule 1 au pit stop. On m'a équipé en son, mais en... Bon. Merci à toi. En 5 secondes. Incroyable. Et donc, je vous mets un TC. Voilà. Donc, Macron contre les algorithmes. Là, il nous reste 5 minutes, donc on va en parler très très vite, mais je vous en parlerai plus longuement ce soir. Hop. Tac. Tac. Interagir. Et on va mettre... quelle heure il est? 9h54. Voilà, donc ce matin, ce soir, à partir de 20h, je vous proposerai une revue de presse un peu plus complète. Quoi. Voilà, on prend un peu. Let's go, non. Et je vais profiter aussi de ça pour envoyer tout ça à Vincent qui fait le sommaire de la revue de presse en podcast. Vous savez qu'on est en podcast tous les jours aussi. Hein, depuis quelques semaines, la revue de presse, elle est retrouvée tous les jours, en général à partir de 15-16h, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Voilà. Et je vais envoyer à Vincent... Bougez pas. Voilà. Voilà. Alors, voilà pour ce matin les TC de la revue de presse parce que ça l'aide à vous mettre ça en ligne. À l'organisation de fou. Voilà. C'est bon, c'est ok. Les amis, dans 5 minutes, MVP. Voilà. Et puis, donc, un petit coup d'œil à ça, avec un nouveau cheval de bataille enfourché par le président sur les réseaux sociaux, sur la lutte contre les algorithmes. Voilà, c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est la marotte du président. Sur un sujet, pour le coup, qui me semble essentiel. Voilà. Nouvelle étape de sa tournée visant à sensibiliser l'opinion à l'impact des algorithmes, le président est attendu à Arras pour un débat face aux lecteurs de La Voix du Nord ce mercredi pour parler de ça. Ah oui, un problème avec le sommaire, pardon. J'ai fait des bêtises. Voilà. Merci beaucoup. De quoi s'agit-il? Je vous le dis très très vite. Voilà, donc, le chef de l'État, aujourd'hui à partir de 16h, va rencontrer des lecteurs de La Voix du Nord, journal régional, à Arras, pour discuter, je cite, de la démocratie à l'épreuve des réseaux sociaux et des algorithmes. Voilà. La démocratie à l'heure des réseaux sociaux et des algorithmes. Pour le coup, ce soir, on en parlera ensemble, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur les conséquences des réseaux sociaux, sur la manière dont on échange, dont on débat, dont on fait démocratie et nation, même, dans notre pays. Ça ressemble à un sujet de thèse, dit le Figaro, mais Emmanuel Macron veut en faire un thème grand public. Voilà. Avec la volonté de sonner le tocsin, de sonner l'alerte sur les dangers que les réseaux sociaux, qu'il compare volontiers au Far West, feraient peser sur la démocratie. Voilà. Pour le coup, je pense que c'est un vrai sujet. Et c'est pas parce que c'est Emmanuel Macron qui le porte, voilà, qu'il en parle ou pas, je pense que c'est un sujet essentiel. C'est la nouvelle croisade du président, écrit-il, l'impact des plateformes sur la formation des consciences, du débat public et des élections. Alors, la popularité du président Macron, elle est ce qu'elle est, extrêmement faible. Vous êtes plusieurs à souligner cette impopularité dans le chat, et je ne peux pas vous donner tort, elle est très, très, la popularité du président est très très... Hello ! Il y a Lorraine, il y a Ludo qui viennent d'arriver, qui sont en train de s'installer pour MVP, et il y a Marie Palot qui va s'installer dans un instant aussi. Elle est très faible, mais est-ce que c'est parce que... Est-ce que ça doit nous désintéresser du sujet ? C'est la question que je pose. Oubliez Macron un instant. Salut Marie. Le sujet, il est hyper important. Donc oubliez un instant la popularité du président, c'est pas parce que lui il en parle que ce sujet n'est pas intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est pas tellement que le président Macron en parle, c'est que ce sujet, il faut en parler. C'est donc la nouvelle croisade du président. L'impact des plateformes sur la formation des consciences, le débat public et les élections. Emmanuel Macron avait donné le coup d'envoi de cette démarche en octobre dernier, en réunissant à l'Élysée près de 200 experts appelés à lancer le travail de résistance. Voilà. Et en fait, les médias n'ont pas énormément parlé de ça, de ce sujet. Voilà. Le champ du sujet est large, pour ne pas dire fourre-tout, les plateformes, les algorithmes, les ingérences étrangères, la protection des mineurs, c'est une bonne chose de brasser tous ces paramètres, parce qu'ils sont intimement liés, observe le sociologue Gérard Bronner. Vous savez quoi ? On va prendre le temps d'en parler ce soir. Mais on ne parlera pas tellement de l'initiative politique du président Macron. On parlera plutôt de ce que vous en pensez, vous. C'est-à-dire de l'impact éventuel. Attendez, je me prépare la petite boisson qui va me soutenir pendant 3 heures d'émission là. Salut, c'est Paul. C'est Paul dans l'oreillette. Ça va, Paul? Moi, je suis heureux. On est prêt? Moi, je serai prêt. Moi, je suis prêt. Ah, donc on en parlera ce soir. Et ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ce que le président Macron souhaite faire en la matière, parce que je crois pas que ce soit très clair pour l'instant. C'est plutôt ce que vous en pensez, vous. D'accord ? Donc rendez-vous ce soir à 20h. C'est quoi cette cochonnerie que tu bois ? C'est de l'eau. C'est de l'eau. Les amis, deux fois par mois, vous avez... Hop, attends, j'ai plus besoin de la tablette. Deux fois par mois, vous avez... Bon, ça va... Je vais débrancher, vous allez avoir du noir, je pense. Voilà. Deux fois par mois, vous avez sur ma chaîne MVP, Ma Vie Pro, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun puisse trouver sa voie. C'est sa deuxième saison, c'est une émission dont je suis très fier, qui trouve son public. Vous êtes de plus en plus nombreux à la regarder, et c'est maintenant. Et maintenant, avant on faisait ça un petit peu comme ça, et maintenant on fait une revue de presse avant, parce que je trouve dommage que ce jour-là, ce jour de MVP, deux fois par mois, il n'y ait pas de revue de presse. Donc je me lève un petit peu plus tôt. Et je vous fais la revue de presse. Je suis en train de préparer mon conducteur, puisqu'on va y aller directement. Là, il y aura zéro transition. Voilà. Voilà. Voilà, vous avez, j'ai tout. Genre, c'est incroyable, c'est prêt. Voilà, donc on va y aller. Salut MG. J'ai pas pris 5 minutes de pause. Non, non, non. Ah non, on enchaîne, on enchaîne. Je vais littéralement marcher. Voilà. De l'un à l'autre. Amis de la région, on est prêt. On est prêt? Regardez, j'ai mon conducteur, j'ai ma batterie, j'ai mon téléphone. Alors, je finis mon café. Est-ce que je mélange mon café avec mon.